Chers auditeurs et chères auditrices, nous continuons notre série très importante et on peut dire pas trop facile parce que c'est quand même très condensé et c'est notre série « Le message de la croix jusqu'au triomphe final ». Ah oui, jusqu'au triomphe final. Et nous sommes à l'étude numéro 17. Nous aurons deux petits thèmes. Premièrement, la ruine et le jugement du monde. Deuxièmement, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Chers amis, pour ceux qui désirent avoir des explications additionnelles à ce qui concerne les terribles plaies qui vont s'abattre sur cette humanité, veuillez consulter le site internet où vous pouvez trouver toute l'importance. On peut dire vraiment, je crois qu'il y en a même deux de séries, toute l'importante série concernant les prophéties de la fin des temps. Et vous y trouverez même encore quelque chose qui a été transmis, on peut dire, par l'éclaircissement de l'Esprit Saint pour donner une idée de ce que pourrait être le 666. L'Antichrist dans toute son horreur et sa méchanceté. Chers amis, en dépit de toute sa gloire, le millénium n'est pas la pleine consommation, la mort y existe encore. Le péché y est encore possible avec la malédiction qui s'y rattache, selon Ésaïe, chapitre 65, verset 20. Surtout, n'ayez pas peur de noter toutes les indications bibliques, les citations bibliques, parce que ça va vraiment vous aider merveilleusement pour encore mieux pouvoir approfondir ce que j'essaye de vous transmettre. La justice règne donc sur la terre, mais elle n'y habite pas en tous, c'est-à-dire en tous comme ça sera sur la nouvelle terre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 13, et die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 21, verset 3. La désobéissance d'un groupe de peuple est donc encore et oui, malheureusement, encore possible. Zacharie 14, versets 17 et 18. Mais la responsabilité est accrue. Satan, étant tout de même lié, est de ce fait incapable de séduire. Malheureusement, l'homme n'étant plus sollicité, ni poussé au péché, on pourrait penser que tout va pour le mieux, que tout est sain et parfait, sans aucun péché, eh bien pas tout à fait. Il sera quand même aisé, pour ceux qui le désirent, et ceux qui sont sincères, de ne pas pécher, puisqu'il n'y aura pas l'influence de Satan. En effet, mais cela explique bien sûr la sévérité qu'il y aura, une sévérité qui sera beaucoup plus accrue qu'aujourd'hui concernant les jugements dans ce royaume millénaire, car il n'y aura plus de tolérance au, si vous voulez, à tous ceux qui commettent des impairs. Il n'y aura plus de tolérance, ni la patience divine envers le mal. Et on le comprend. J'aimerais que vous notiez Saint Matthieu, chapitre 5, verset 45, chapitre 13, verset 30, Romains, chapitre 3, verset 25, et le chapitre 9, toujours de Romains, verset 22, et la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9 et le verset 15. Donc, celui qui commettra un péché, eh bien, le jugement sera immédiat et absolument sans exception. Voyez-vous, les nations qui refuseront de servir le Seigneur, c'est avec un sceptre de fer qui les pètera. Ceux qui résistent, il les mettra en pièces comme un vase de potier. Psaume chapitre 2, verset 8 et 9, Apocalypse 19, verset 15, toujours Apocalypse chapitre 12, verset 5, et on retourne à l'Apocalypse chapitre 2, verset 26 et 27, comme comparaison. Donc les méchants seront tués. Et cela par le souffle de la bouche de Christ, de Jésus-Christ. Ésaïe 11, verset 4. Il y aura donc soit ceux qui obéissent, sinon il y a pour eux, pour ceux qui commettent malgré tout le péché, puisque vraiment ce sera pas, ils pourront pas dire c'est la faute de Satan, ce sera délibérément, et ça c'est beaucoup plus terrible encore, puisque on vivra dans une situation d'ambiance presque idyllique. Alors pour ceux qui commettent quand même, malgré tout, des choses qu'ils ne devraient pas faire, alors l'alternative pour tous, eh bien, sera la même, soit la punition, ou on reste dans la bénédiction, et cela à partir du début du royaume et tout du long de ce millénium. À la fin, Satan doit être délié et il séduira. Alors là, quelle rage qu'il aura, ce sera le summum. Il séduira les nations une fois encore pire que jamais. Apocalypse 20, verset 3, verset 7 et verset 8. La justice de Dieu ne permettra pas que les injustes soient exterminés avant que leur injustice ait atteint sa maturité. Apocalypse 14, verset 15. C'est une règle divine qui sera appliquée même dans le cas de Satan, et on va y venir. Voici donc le résultat de ce test. Toute la gloire et toutes les bénédictions de ces longues années du millénium, ils aboutiront à la plus grande rébellion des peuples. Difficile à croire à première vue, mais compréhensible quand on pense que Satan a dû ou a eu le temps de mijoter des choses pires qu'il n'a jamais fait auparavant, pourtant il en a fait. De tous les bouts de la terre, les révoltés, les rebelles, se rassembleront contre Jérusalem, semblables au sable de la mer. Tout cela sous le haut commandement de Gog et Magog. Notez soigneusement Apocalypse 20, versets 8 et 9, Ézéchiel chapitre 38, notez encore Ézéchiel chapitre 39, et retournez à la Genèse au chapitre 10, versets 1 et 2. C'est l'ultime rébellion de toute l'histoire. On peut dire que c'est la dernière guerre religieuse, le dernier effort convulsif de la révolte de l'homme contre le Très-Haut. Maintenant, le péché atteint vraiment sa pleine mesure. Qu'est-ce que ça doit être? L'humanité rejette même la seigneurie visible de la divinité. Elle méprise les plus grandes de ses bénédictions par la plus dédaigneuse ingratitude, foulant carrément aux pieds toute sa gloire personnelle. À la direction de Dieu, elle préfère l'insinuation séductrice de Satan plutôt que l'unité et la paix. Elle choisit la conspiration et l'insurrection. Au Messie céleste, elle préfère son ennemi mortel, c'est-à-dire le diable. Une telle attitude ne peut entraîner qu'une seule réponse, c'est-à-dire la destruction et la ruine. Ou si avant même que la révolte se change en combat, le feu descend du ciel et consume les rebelles. Le diable, qui les a subjugués, et enfin jetés dans l'étang de feu et de soufre, où se trouve déjà l'Antichrist et le faux prophète. Notez Apocalypse chapitre 20, versets 9 et 10. Après, lorsque l'Antéchrist sera renversé et précipité dans les temps de feu, c'est pas fini. Satan apparaîtra lui-même après le millénium. Il apparaîtra lui-même pour sa dernière tentative, se révélant alors tel qu'il est vraiment, et croyez-moi d'une manière directe. Bien sûr que ce sera pour sa perte, car il sera enfin abattu et jeté lui aussi dans l'étang de feu. Apocalypse 20, versets 7 à 10. À l'apparition du Fils, l'Antifils, Antichrist, est jugé. Et cela à la manière, on peut dire, du Père. L'anti-Dieu, nous savons qui c'est, le dragon, il est enfin jugé. La seconde personne de la Trinité divine triomphe de la seconde personne de la Trinité démoniaque. La première personne divine de la première personne infernale. Donc, je répète, la seconde personne de la Trinité, vous savez qui c'est, triomphe de la seconde personne de la Trinité démoniaque. La première personne divine de la personne ou de la première personne infernale. Alléluia! Gloire à Dieu! Il y a donc dans l'histoire de l'univers un parallélisme un développement simultané de deux forces ennemies, développement qui manifeste en quelque sorte le royaume des ténèbres pour son jugement et le règne céleste pour son triomphe. Donc maintenant, la structure universelle, elle disparaît dans les flammes. Une destruction absolue, destruction de la terre, destruction des étoiles, destruction du cosmos. Les cieux et la terre se trouveront totalement ébranlés. Et là, notez AG, voilà un livre qu'on n'ouvre pas souvent, AG, chapitre 2, verset 6, et Hébreux, chapitre 12, verset 26 à 28. Les cieux disparaissent un peu comme une fumée, et ils périssent comme un vêtement. Notez la confirmation Ésaïe 51, verset 6. La terre se brise. Ésaïe 24, verset 19. Les étoiles se dissolvent. Ésaïe 34, verset 4. Les cieux sont roulés ensemble comme un parchemin. Psaume 102, verset 27. Les éléments se désintègrent et se dissolvent. Deuxième épître de Pétre, chapitre 3, versets 7 et 12. Donc l'univers passe, on peut dire, avec fracas. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 10. Et tous les impies, nous est-il dit, sont consumés, consumés comme par une fournaise ardente. Malachie, chapitre 4, verset 1. Telle est donc la réponse du Tout-Puissant à l'abjecte rébellion de ses créatures et à la plus infernale révolte de son univers. Ainsi se révèle la juste colère divine contre toute la sphère de péché. On peut dire tous les péchés terrestres et même, et vous comprendrez, des péchés célestes. On y viendra. Mais de ce jugement par le feu émerge un monde nouveau et glorieux. Gloire à Dieu. Le but de Dieu n'est pas l'annihilation. C'est difficile à prononcer pour moi, l'annihilation, ce qui veut dire tout simplement la destruction. Le but de Dieu n'est pas la destruction, mais surtout la transformation de ce monde déchu. Hébreux 1, verset 12. Non pas la dissolution et la désolation totale, mais la transfiguration en gloire. Donc, descendre de ce monde détruit, Saint Matthieu 24, verset 35, sortiront dans une gloire nouvelle, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Apocalypse 21, verset 1 et deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 13. Il est important, si vous pouvez, de noter quelques-unes de ces citations bibliques parce que vous comprenez bien que c'est quand même pas à la mesure d'un débutant qui vient de se convertir. Et de ce fait, ceux-là doivent avoir la possibilité de s'approfondir en lisant ces passages bibliques dans la méditation et la prière pour comprendre tout cela avec l'aide de l'Esprit Saint et ainsi de grandir, de se fortifier et de se préparer. Parce qu'il y a maintenant des choses qui sont en train de se passer, attention, nous ne sommes plus en pleine période de la dispensation de la grâce. Il ne faut pas rêver. Vous voyez bien tout ce qui se passe, j'espère. La Bible dit dans Apocalypse 20, versets 11 et 12, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis des morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, oui, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Et là, vous avez la preuve dans Apocalypse 20, versets 11 et 12. Donc tout d'abord, nous avons, premièrement, le trône. Ça, c'est le grand trône blanc. Blanc par sa majesté. Blanc par sa sainteté. La terre fuit à cause du péché des hommes et parce qu'elle a été souillée du sang du Fils de Dieu. Les cieux fuient à cause du péché des esprits, voilà, on en vient, et de la méchanceté des chefs et des dominations dont ils furent la résidence. N'oublions pas que tout ce monde d'esprits mauvais, de démons, qui se trouve en effet dans une certaine, on peut dire dans un certain endroit, tout simplement entre le ciel et la terre. Et donc, tous ces esprits de méchanceté, ainsi que leurs chefs, qui sont des princes de démons, des dominations terribles, eh bien, ils seront détruits. Éphésiens 6, verset 12, et le chapitre 2, verset 2. Deuxièmement, nous avons le juge. Le Père a remis tout jugement au Fils. Saint Jean 5, versets 22 et 27. C'est lui, l'homme, que le Très-Haut a établi pour juger la terre avec justice. Actes, chapitre 17, verset 31. C'est lui le juste juge qui a été établi par Dieu son Père sur tous les vivants ainsi que sur tous les morts. Deuxième épître de Timothée, chapitre 4, verset 8. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 42, et ajouté, premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 5, et dont les jugements s'exercent maintenant conformément à la volonté de Yahvé l'Éternel, à la volonté du Père. Saint Jean 5, verset 30, et le chapitre 8, verset 16. Troisièmement, nous avons le critère. Le critère, c'est la parole de Dieu. Il est dit que celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, que le Seigneur a annoncé, c'est elle qui le jugera. et cela au dernier jour. Eh oui, et vous avez la preuve dans Saint Jean, chapitre 12, verset 48. Quatrièmement, nous avons les personnes qui vont être jugées. Eh bien, là, nous avons les morts, tous les morts, grands et petits, importants ou esclaves, de tous les pays et de toute époque, à l'exception, bien entendu, de ceux qui sont ressuscités au commencement et en vue du millénium. Les saints de l'Ancien Testament, ainsi que les membres de l'Église glorifiée et les croyants de la tribulation, ont déjà connu leur résurrection avant l'établissement du règne messianique, Apocalypse 20, versets 4 et 5. Ils ont donc comparu devant le tribunal de Christ, 2e épître de Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Et, de ce fait, ils ont vécu 1000 ans, déjà 1000 ans, dans un corps spirituel glorifié. Revoyons encore une fois cette partie pour mieux la comprendre. Donc les saints, nous savons maintenant qui c'est, les saints de l'Ancien Testament, ainsi est-il dit, les membres de l'Église glorifiée et tous les croyants de la tribulation, ceux-là ont déjà connu leur résurrection avant l'établissement du règne messianique. Ils ont corrompu, plutôt, excusez-moi, ils ne sont pas corrompus du tout, puisqu'ils ont comparu, c'est ça le mot, ils ont comparu tous devant le tribunal de Christ. Et, en plus, et j'espère que nous en ferons partie, ils ont vécu 1000 ans déjà dans un corps spirituel glorifié. Ça, c'est donc tout à fait quelque chose d'important à se rappeler. Parce que vous qui écoutez aujourd'hui, vous ferez partie de tout cela qui pourront revenir pour régner avec notre Sauveur et Seigneur, notre Roi, notre Sauveur qui nous a tirés de la fosse, par qui nous avons pu être sauvés. Et par ce salut, nous avons donc ce bonheur, ce cadeau phénoménal de pouvoir nous trouver dans un corps spirituel glorifié. Cinquièmement, nous avons, et là c'est moins glorieux, nous avons la sévérité du jugement. Vous savez, les gens pensent au bon Dieu. Le bon Dieu pardonne tout. C'est tout juste qu'il ne ferme pas un œil. Il y en a qui aimeraient qu'il ferme même les deux yeux. Non, il y aura la sévérité du jugement. Les autres doivent maintenant paraître devant le tribunal suprême, car leurs œuvres, leurs actions, leurs paroles, leurs pensées même, ce qu'ils ont fait ou qu'ils ont omis de faire, tout cela est consigné dans des livres. Apocalypse 20, verset 12. Oh, ça sera beaucoup plus élaboré et perfectionné que toutes nos tablettes et tous nos électronismes d'aujourd'hui. Ils doivent donc, ces personnes qui vont être jugées, ils doivent rendre des comptes. Et il est dit, et là je fais attention, parce qu'il m'arrive des fois de plaisanter, pas vulgairement ou méchamment, mais je me rends compte que nous devrons rendre des comptes, et je le dis pour moi, même de toute parole inutile. Oh là là, en tout cas, à moi, ça me donne beaucoup à réfléchir, voire même à avoir la chair de poule, parce que c'est quand même sérieux tout ça. Et je demande au Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi davantage, s'il te plaît, je le désire. Je le désire, il faut encore le désirer soi-même. Alors, chers amis, toutes choses seront manifestées, même les plus secrètes de l'âme. Hébreux 4, verset 13. Le juge sondera, et cela d'un seul regard, même tous les recoins les plus intimes de chacun de nous. Apocalypse 1, verset 14, et Daniel, chapitre 7, verset 9 à 10. Ceux qui contestent vainement seront réduits au silence. Job 9, verset 3, et Saint Matthieu, chapitre 22, verset 12. Et tous les vantards, car il y en a, et tous les hautains seront brisés. Et là, vous pouvez noter le verset 15 du livre de Jude. C'est un tout petit livre avant die Offenbarung, Jude, verset 15. Alors apparaîtra, on peut dire pitoyable, toute la faiblesse profonde de tous les grands et de tous les héros de l'histoire. Psaume chapitre 2, verset 1 à 5. Il peut y avoir des pilotes de Formule 1 mondialement adulés, des artistes du ballon dans le football que on paye ou que ceux qui désirent les avoir pour gagner contre les autres à prix d'or, voire jusqu'à 1,5 milliard. Eh bien, il y aura aussi des qui, uniquement à la place de s'occuper de leurs âmes, adorent que leur corps. Il y aura certainement de ceux qui ressemblent à des Schwarzenegger, à moins qu'ils se convertissent et qu'ils changent totalement de cap. Oui, toute propre justice apparaîtra dans sa véritable lumière, tel un vêtement souillé, nous est-il dit dans Ésaïe 64, verset 5. Toute illusion sur soi-même, toute illusion, et j'ajoute sur moi-même, se changera en amer désappointement. En effet, tous devront se plier. Romains 14, verset 11 et Philippiens 2, verset 10, et devront reconnaître que Dieu est juste. Et quand il nous fait la grâce de reconnaître déjà maintenant que Dieu est juste, croyez-moi, ça c'est une grâce où nous devrions remercier le Seigneur tous les jours, parce qu'il ne fait pas cette grâce à tout un chacun sur cette terre. Tous les faussement pieux, très très religieux, tous les coups raides s'entendront dire « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, j'ajoute pour ses démons infernaux. » Saint Matthieu, chapitre 25, verset 41 et chapitre 7, verset 23. Néanmoins, tous ne seront pas condamnés. La doctrine selon laquelle aucun de ceux qui se tiennent devant le trône blanc ne sera sauvé semble aller à l'encontre des Saintes Écritures. Voyons ce que dit l'Apocalypse. Quiconque, est-il dit, ne fut pas trouvé écrit. Donc, il n'est pas dit que tous ne se trouvent pas écrits. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20, verset 15. Voyez-vous, si personne ne devait être sauvé, l'apôtre n'aurait-il pas écrit « Parce que personne, absolument personne, ne fut trouvé dans ce livre de vie. Car ils furent tous jetés dans l'étang de feu. » Mais il n'a pas dit ça. Les nations converties pendant le millénium n'ont pas été jugées avant, et ils doivent donc paraître devant ce trône, évidemment. Lorsque ailleurs l'Apocalypse dit que les morts seront jugés d'après leurs œuvres, il faut se souvenir que la foi elle-même est une œuvre. C'est l'œuvre qui est conforme à la volonté de Dieu, comme Christ l'a déclaré. C'est ici l'œuvre de celui qui m'a envoyé, que vous croyez en lui, en Jésus-Christ. C'est sa réponse à la question: que devons-nous faire? What must I do to be saved? Afin de pouvoir accomplir les œuvres de Dieu. Saint Jean, chapitre 6, versets 28 et 29. Les autres œuvres sont de deux natures. D'une part, les œuvres de la chair et de la loi accomplies par les irrégénérés, mais qui ne peuvent se justifier devant Dieu. Romains chapitre 3, verset 28. D'autre part, nous avons les œuvres de la foi qui, selon les Saintes Écritures, et en dépit de la grâce, sont requises de la part des justifiés. Tite, chapitre 2, verset 7, verset 14, chapitre 3, verset 1 et le verset 8, ajoutez le verset 14 du chapitre 3 de Tite. Et maintenant, ajoutez encore Jacques, chapitre 2, verset 16. Et sixièmement, nous avons la seconde résurrection. La seconde résurrection. En effet, l'Écriture enseigne pleinement qu'il y aura une résurrection corporelle des perdus. Apocalypse 20, verset 12. Elle appelle la résurrection des injustes. Actes, chapitre 24, verset 15. Ça, c'est la résurrection pour le jugement. Saint Jean, chapitre 5, verset 29, ou la résurrection, pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Daniel 12, verset 2. Cette résurrection-là est aussi l'œuvre du Christ. 1 Corinthiens 15, versets 21 et 22, et ajoutez Saint Jean, chapitre 5, versets 26 à 29. N'ayez pas peur de noter. Elle est donc l'introduction à une autre mort qui s'appelle la seconde mort. Apocalypse 20, verset 14 et chapitre 2, verset 11. Leur sort est dépeint par l'Écriture sainte en de terribles images. Il est dit « tribulation et angoisse » Romains 2, verset 9. Il est dit « des pleurs et des grincements de dents » Saint Matthieu 22, verset 13 et chapitre 25, verset 30. Il est dit « destruction éternelle » pas 15 jours de vacances. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Il est parlé de fournaise, Matthieu 13, verset 42 et verset 50. Ajoutez les psaumes 21, verset 9 et Ésaïe chapitre 30, verset 33. Il est parlé de prison. Il est parlé de l'abîme, Saint Matthieu 5, verset 25 et 2e épître de Pierre, chapitre 2, verset 4. Il est parlé de l'enfer et des tourments éternels, Saint Matthieu 25, verset 46. Il est parlé du ver qui ne meurt point, Saint Marc 9, verset 48. Du feu qui ne s'éteint point, Saint Marc, chapitre 9, verset 43 et 48. Et Saint Matthieu 25, verset 41. Il est parlé de l'étang de feu et de soufre, Apocalypse 20, verset 15 et le verset 10, ainsi que le chapitre 19, toujours Apocalypse, verset 20. Oui, en effet. Croyez-moi, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreu 10, verset 31. Notez aussi Saint Matthieu 26, verset 24 et Apocalypse 14, verset 11. Chers amis, vous qui avez l'Internet, je ne le possède pas, mais tout le travail que je fais va par une pasteur qui s'appelle Sabina Reichenbach. Après avoir vérifié, c'est important, parce que nul est infaillible, ne sommes-nous pas des simples êtres humains faillibles. Alors veuillez, s'il vous plaît, chercher sur le site internet l'extraordinaire témoignage de Marietta. Et aussi, vous pouvez trouver tout ce qui est concernant le ciel. Mais le témoignage de Marietta va beaucoup vous aider pour comprendre ce que nous venons d'approfondir d'une façon sérieuse et sincère, selon tous les critères de la Sainte Parole de Dieu. Très important. Voyons maintenant, je ne sais pas si on y arrivera, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Sachez que les pensées immuables sont de Dieu, or leurs mouvantes interprétations sont des hommes. Ça vaudrait la peine de répéter. Sachez que les pensées immuables sont et viennent de Dieu, or leurs mouvantes interprétations sont ou viennent des hommes. La Bible dit dans Apocalypse 21, versets 1 à 3, « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, oui, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux. » Apocalypse 21, versets 1 à 3. De l'ancien monde, embrasé, sortira donc un nouveau monde. À la place de l'ancienne création, sortira une création nouvelle, formée de matériaux lumineux et transparents, un monde fait de perfection et de stabilité. Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera définitivement. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 13. Tels sont l'aboutissement et l'apothéose de toute l'histoire. Nous avons l'ancien et le nouveau monde. Le monde nouveau ne sera pas sans aucun rapport avec celui que nous connaissons. La terre à venir n'est pas autre, mais elle est nouvelle. Si l'apôtre Jean voit un nouveau ciel et une nouvelle terre, cela montre que dans la nouvelle création, une distinction subsiste entre notre planète et les lieux célestes. Voyez-vous, il semble que les matériaux de l'ancienne création seront réutilisés, même si c'est d'une manière qui nous paraît encore tout à fait incompréhensible. Dieu n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. Abandonnerait-il à l'ennemi ou à la destruction toute la matière glorieuse? Cette nouvelle création des cieux et de la terre, elle est semblable à la nouvelle création de l'homme. Car en Christ, l'individu est maintenant une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu, toutes choses sont faites nouvelles. Deuxième épître de Colossiens, chapitre 5, verset 17. Pourtant, c'est toujours le même homme, ayant le même ego, ayant la même âme. Ainsi Dieu, brûlant au feu ces matériaux cosmiques, il les réduira à leur élément de base pour les libérer de toute, restriction, transformant ainsi toute chose pour reconstruire avec les pierres de la structure ancienne une nouvelle structure selon un plan tout nouveau. C'est comme le morceau de charbon enfermé dans une éprouvette, réduit à l'état gazeux sous l'effet d'une très grande chaleur et qui se cristalliserait ensuite en un glorieux diamant. Ainsi Dieu changera et rachètera, il créera les choses nouvelles et transfigurera son œuvre. Le ciel et la terre sera comme nous, purifiés. Ce n'est pas seulement la terre, mais encore le ciel qui aura part à la rédemption. Et oui, c'est sur l'histoire universelle que s'étend l'influence de l'œuvre de Golgotha, et le salut de l'humanité n'est qu'une partie du conseil divin. Il en est peut-être le centre, mais il n'occupe pas tout le cercle. Il faut que les choses célestes soient purifiées, elles aussi, par le sacrifice de Christ. Hébreux 9, verset 23. Les cieux auront donc été l'habitation des esprits révoltés. Satan, leur chef, y aura, on peut dire, eu accès, pendant des millénaires, et cela jusqu'aux régions élevées. Et là, ça vaudrait la peine de noter pour que vous puissiez avoir la confirmation des choses qu'on essaye de vous transmettre. Notez Éphésiens 6, verset 12, chapitre 2, verset 2, Job, chapitre 1, verset 6, chapitre 2, verset 1, 1 Roi, chapitre 22, verset 19 à 23, Apocalypse 12, verset 7 à 9, Job 15, verset 15, et Ésaïe 24, verset 23. À cause de cela, les lieux célestes doivent donc être purifiés. C'est comme fils de l'homme que le Rédempteur a accompli son œuvre de salut. Dieu, par là, cristallisait en nous la pensée éternelle de tout son amour rédempteur. Sans l'histoire du salut de l'humanité, il n'y aurait pas eu du tout l'histoire du salut. Romains 8, verset 19. Mais les choses qui sont dans le ciel et dans l'univers sont liées à notre rédemption, des choses qui sont bien au-delà de ce que nous pouvons penser et que la Sainte Bible ne mentionne que d'une façon voilée. Nous touchons donc là le bord de l'infini et devons confesser notre ignorance. Ce que nous savons, c'est que l'histoire du salut est en relation avec l'humanité et en même temps avec tout l'univers. Or, parce que l'humanité du Rédempteur divin est le principe fondamental de tout notre salut, salut dans le ciel comme sur la terre, le lieu d'habitation de l'humanité deviendra l'habitation de la divinité, deviendra la capitale de l'univers du Seigneur de tout et son centre. Le trône de Dieu aura donc la terre pour marchepied et la terre elle-même sera le trône. Saint Matthieu 5, versets 34 et 35. La nouvelle Jérusalem descendra, on l'a dit, sur la terre. Apocalypse 21, verset 10. Qui sera désormais la résidence royale du royaume universel de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle. Apocalypse 22, verset 3. Chers amis, l'incarnation est la fin de tous les chemins de Dieu. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre n'ont rien d'immatériel ou d'évanescent. Ce n'est pas un monde de simples idées ou de simples pensées sans corps, mais c'est une vie de résurrection dans un corps de lumière, une sainte transfiguration et, on peut dire, en un univers matériellement transformé. Nous ne pouvons parler de cette matière nouvelle, inconcevable, que en image et en parabole, bien qu'il y ait autre chose qu'une simple allégorie dans cette réalité effective et spirituellement incarnée. Cette difficulté à dépeindre dans le langage de ce monde, donc une création qui sera si différente jusque, on peut dire, jusque dans son essence même. Cela justifie pleinement le vocabulaire des prophéties qui s'y rapportent, car la Bible parle de la Jérusalem céleste comme étant bâtie de pierres précieuses. Apocalypse 21, verset 18 à 21. Et elle dépeint l'arbre de vie, elle dépeint la rivière de cristal, et tous ceux qui chantent ses louanges et les palmes de victoire de vainqueurs. Tel est donc le portrait symbolique de la gloire de la nouvelle création. Mais dans ce qui est dit de la splendeur et de la lumière de Dieu, du paradis et du jardin céleste, d'une fête bénie et d'une musique céleste, il y a beaucoup plus qu'un simple sens spirituel. La nature terrestre est comme une promesse pointée vers son accomplissement. L'échatologie biblique, elle ne dit rien d'une spiritualisation sans corps. Pas du tout. La foi en la création et en la résurrection conduit à la certitude d'une nouvelle création transfigurée, mais non incorporelle. Dieu a créé le corporel. Il a créé le terrestre et le visible. Il a construit le monde avec des couleurs et des formes, et non pas avec des idées seulement, ou avec des âmes de flamme et des esprits immortels. Ce qui est corporel, comme ce qui est terrestre, n'est pas sorti de l'enfer, mais a été originellement glorieux et bon. Et c'est pourquoi la nature peut aller avec joie à la rencontre de son éternel Pâques. Les Saintes Écritures ne présentent pas le corps comme simplement une prison pour l'âme, ni une camisole de force pour l'esprit tombé que nous sommes, que je suis, mais comme une partie essentielle de la nature de l'homme. 2 Corinthiens 5, versets 3 et 4. Et c'est pourquoi elle n'enseigne pas une rédemption hors du corps, mais une rédemption du corps. Romains 8, verset 23. C'est une vérité que souligne avec force la résurrection corporelle du Seigneur Jésus-Christ lui-même, 1 Corinthiens chapitre 15. Ne serait-il donc pas hasardeux, chers amis, de croire en un Christ ressuscité avec de la chair et des os, capable de boire et de manger, Saint Luc 24, versets 39 à 43, et Actes chapitre 10, verset 41, et d'avancer par ailleurs que la description prophétique du royaume céleste n'est que symbolique et allégorique. Non, non, non. Jésus-Christ, corporellement ressuscité d'entre les morts, il est le roi de ce nouveau monde et qui n'est pas simplement allégorique ou virtuel. Non, non, non. Non. Voyez-vous, matérialité, ça ne veut pas dire ou ce n'est pas en soi synonyme de visibilité. Car la visibilité, elle n'appartient pas à l'essence de la matérialité, mais elle dépend entièrement de nos yeux. Il est difficile de le croire, mais si vous vérifiez dans l'Ancien Testament, il y en a tout de même qui ont été confrontés à des anges qui n'étaient pas des vapeurs plus ou moins en brouillard, mais des réalités. Tout dépend entièrement de nos yeux humains, tombés dans le péché. À n'importe quel moment, la matière terrestre peut perdre ou réduire sa visibilité sans que soit perdue aucune de ses caractéristiques de base, car à moins 190 degrés Celsius, l'air invisible se change en un fluide bleu et au-delà en un bloc de cristal. Ainsi, par la chaleur, le visible peut être rendu invisible et par le froid, l'invisible peut être fait visible. Donc la matière n'est donc en elle-même ni visible ni invisible. Notre notion du visible est naturellement très étroite. Des millions de couleurs existent. Les rayons ultraviolets, par exemple, nous ne discernons là qu'un nombre bien limité, limités de même que nous n'entendons que bien peu de sons. Vous savez qu'il est prouvé que même notre compagnon à quatre pattes, le chien, il a un odorat bien au-delà de nous. Il entend des sons que nous n'entendons même pas. Oui, tout cela peut entourer la terre par des mélodies les plus sublimes. Mais nous, les humains, nous ne les entendons pas. Si les vibrations qui sont produites dans l'air excèdent, par exemple, 75 000 vibrations par seconde, combien il serait donc insensé de dire que personne n'a jamais vu le ciel ou les anges. S'il vous plaît, consultez le site internet où vous entendrez toute une série importante de réalité concernant le ciel et où une personne, Marietta, a vraiment eu le bonheur de consulter, de voir, après avoir été dans le coma, a pu voir le ciel. Comme si cela pouvait prouver autre chose que notre aveuglement et notre surdité au regard des anges. Oui, toute visibilité ou invisibilité dépend donc entièrement de notre vision, et celle-ci dépend évidemment de la volonté de Dieu. Mais il y a beaucoup plus que cela. La visibilité est une condition inférieure de la matière. Le froid et l'engourdissement sont la mort et la paralysie de toutes les puissances de la matière terrestre. Et à moins 200 degrés, même les plus forts acides ne peuvent corroder les métaux. C'est donc la chaleur seule qui rend la matière invisible, qui la rend forte et libre, intensifiant son énergie vitale. Ainsi, c'est donc un fait pleinement scientifique dans la nature que les plus hautes conditions de la matière terrestre sont précisément invisibles. La Sainte Bible en dit autant de la matière céleste. Ceci souligne une fois de plus l'harmonie qui existe entre les découvertes modernes dans les sciences naturelles et l'image du monde telle que nous la donne l'Écriture sainte. Affirmerons-nous simplement que les anges et les choses du monde invisible ont un corps d'éther, que la physique moderne serait contrainte d'admettre non seulement que de telles créatures nous demeuraient entièrement invisibles, mais encore que ces anges pourraient parcourir d'autres terres, même voler à travers notre corps, même si vous ne le croyez pas, sans que nous puissions les observer. Mais, s'il vous plaît, consultez le site internet, je crois www.bibleexplique.ch, et cherchez simplement l'histoire, si vous ne voulez pas tout étudier sur le ciel, simplement le témoignage de Marietta. Mais la matière céleste est bien plus que l'éther ou que notre matière terrestre invisible, car elle est essentiellement plus parfaite et beaucoup plus céleste. C'est de la matière glorifiée, gouvernée par l'esprit. Elle est donc supraterrestre, élevée au-dessus de tout ce que nous pouvons concevoir. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 4. Son invisibilité ne dépend donc pas du degré de chaleur ou de l'aveuglement de nos yeux imparfaits, mais de sa nature profonde et par-dessus tout de l'aveuglement de nos âmes déchues. Nos yeux ne s'ouvriront que en la pensée de Dieu, alors nous connaîtrons, oh oui, nous connaîtrons comme nous avons été connus. 1 Corinthiens 13, verset 9 à 13. Et nous connaîtrons parfaitement à cette vision, et cette vision sera la véritable vision. Cette audition sera la véritable audition. Le corps spirituel sera visible pour le corps glorifié. Chers amis, avant de terminer cette étude, disons que même dans le domaine des corps spirituels, ce n'est pas l'élément corporel, mais l'élément spirituel qui est la chose principale. Si le corps est spirituel, c'est parce que entièrement contrôlé, parce qu'il est entièrement contrôlé par l'esprit. Ça, c'est l'essence. C'est l'essence, c'est l'esprit. Et c'est déjà vrai en germe dans la nature présente, car chaque objet revêt deux caractéristiques. La première est du temps et l'autre participe de l'éternité. La première est révélée, la seconde, elle est encore cachée. Ce sont celles qui sont cachées qui constituent l'essence de celles qui sont révélées. De là va naître le symbolisme. Tout le langage figuratif de la Sainte Bible, toutes les paraboles du Seigneur et toutes les figures ou comparaissent en général dans l'esprit humain ont leurs racines en ce que les choses visibles sont les silhouettes des invisibles. Le vêtement des idées, c'est la représentation de ce qui, par ailleurs, est tout à fait imperceptible. Le symbolisme est donc la perception des idées sous une forme matérielle, une sorte d'échelle de Jacob qui est dressée entre le ciel et la terre. Il faut cependant souligner que les choses visibles sont plus que des symboles. L'éternel n'est pas seulement la signification, mais encore l'essence du temporel, sa source, sa racine, sa condition, son l'âme. Et c'est pourquoi seule la nature éternelle peut être la véritable nature. Là-haut se trouve l'essentiel. Ici-bas se trouve le reflet. Là-haut se trouve le suprême. Ici-bas se trouve l'ombre. Là-haut se trouve l'original. Ici-bas se trouve seulement l'image. Donc, les originaux se trouve dans les cieux. Là est le vrai boire. Là se trouve le vrai boire et le vrai manger. C'est la véritable vision. C'est la véritable audition. Là est le vrai temple. Oui, le vrai autel et le véritable trône. Ce que nous appelons de ces noms ici-bas, si effectifs que cela nous paraisse, n'est que un pauvre et grossier fragment de la réalité. L'arbre de vie sera tout à fait différent de tous les arbres de la terre. Cette rivière, sans aucune commune mesure avec nos rivières d'ici-bas, et cet or transparent dont il est parlé dans Apocalypse 21, verset 18, cet or transparent sera bien différent de tout l'or de nos palais. Et pourtant, il existe une sorte de relation. Même si nous n'en pouvons rien percevoir, nous savons seulement que le céleste est l'original du terrestre et que le terrestre est une prophétie du céleste. Cette assurance demeure solide et ferme. Là-haut, nous vivrons dans une réalité de loin plus réelle que toutes les choses les plus réelles de la terre. Il y aura là un monde dont la nature ne peut en rien se laisser soupçonner à travers l'image débile que en donne le monde présent. Oui, chers amis, là-haut, nous vivrons dans un royaume de vérité auquel les choses réelles ressemblent comme l'ombre à la réalité. Oui, c'est pas facile ce genre d'étude, et je vous conseille de réécouter une telle étude une deuxième fois, car c'est pas tout facile, il faut que vous ayez un moment de méditation et de prière. Je vous le conseille. Prions. Seigneur Dieu, notre Père céleste, tu veux que ton royaume éternel se développe ici-bas par une lente croissance. Par l'envoi de ton Fils, tu as fait lever sur notre vie la merveilleuse aurore de ta grâce. Et nous t'en supplions, Seigneur. Donne-nous des yeux pour voir ton action puissante, des cœurs ouverts pour comprendre ta sainte volonté, des esprits courageux prêts à suivre le Maître. Éternel Dieu, Père Saint, oui, nous nous approchons de ton trône dans un esprit de gratitude et de prière. Tu as allumé, Seigneur, dans les ténèbres du monde, par Jésus-Christ, ton Christ, vraiment, l'inextinguible clarté de tout ton message de joie, pour qu'à cette lumière puisse germer, puisse croître et fructifier la semence de ta sainte parole. Tu connais, ô Seigneur, le cœur des hommes, et tu sais qu'ils ne se tournent comme les fleurs que vers la lumière naturelle. Il y en a qui fuient la vérité à cause du jugement qui, à la lueur de ton éternelle splendeur, atteint les cœurs enténébrés et mauvais. Oui, Seigneur, nous t'en prions, sois indulgent à notre faiblesse et accorde-nous l'esprit qui vivifie avec la foi qui peut vaincre le monde et même le gagner. Amen. Amen. Chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir, très chers amis. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'ayez pas peur de mettre de côté certaines choses superflues, certains de vos gadgets électroniques, pour avoir un moment de revoir certaines de ces citations bibliques et de méditer et de prier. Et le Seigneur vous enrichira merveilleusement. À demain matin. Au revoir.